なにないないないななにないないなななにないないないななにないないなななにないないないななにないないなななにないないないななにないないなななにないないないななにないないなななにないないないななにないないな。Dans cette belle vallée, j'écoute mes sœurs chanter. Elles chantent pour la vie, elles chantent pour dire merci. Na na ni na 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 ni na 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 ni na 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 ni na na na.
Le 13 septembre, nous avons changé le camp de place. Nous sommes passés de l'autre côté de la rivière. Nous ne sommes plus en demi-lune, mais en constellation, celle du cygne et celle du dragon. Le 14 au réveil, nous nous levons toutes spontanément pour aller retrouver les chevaux en pyjama, à pieds nus. Nous recevons beaucoup de baisers d'amour, de tendresse. Ce sont les pouliches que nous avons sauvées des inondations. C'est un peu comme si elles nous remerciaient, qu'elles nous souriaient, qu'elles se saisissaient de cette occasion de présence pour nous dire leur amour. Grand moment de magie, de changement de vision, au lendemain de ce déménagement après 6 mois.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Vous écoutez Dans la toile du vivant, un podcast proposé par Aline Wauters et Mayana Wolf. Dans ce podcast, nous explorons toutes les facettes d'une expérience unique menée par un groupe de femmes entre mars 2021 et mars 2022 en Belgique, à Momigny, dans l'objectif d'explorer le dialogue avec le vivant. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux conditions concrètes de la vie de ce groupe de femmes. Pour explorer le dialogue avec le vivant, elles ont choisi de vivre au plus près du vivant, c'est-à-dire de dormir sous la tente pendant une année complète. Alors, tu nous disais hier que l'objectif, c'était pas de vivre en pleine nature sans tente, hein, c'était pas du survivalisme, vous aviez un minimum de confort. Enfin, ça reste quand même assez sommaire. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire comment c'est possible pour un groupe de femmes comme ça de vivre, de camper pendant un an sous toutes les saisons, et vous avez eu beaucoup de pluie, comment vous avez géré cet inconfort relatif?
Oui, c'est une question intéressante. Après, c'est individuel, comment chacun l'a vécu. On vivait quand même dans un semi-marais. Donc, il y en a qui supportaient très bien l'humidité, d'autres qui la supportaient très mal. Et dans le fond, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas. Donc, moi, par exemple, je l'ai super bien vécu, mais je ne pouvais pas savoir que je vivais super bien l'humidité. Donc, je vais de toute façon te développer ce que moi j'ai vécu. Hein. Après, d'autres pourront dire autrement, mais je pense qu'il y avait des choses qui... Alors, de se rendre compte qu'en effet, tu vois, de vivre cette chose que... en fait, c'est possible. Pourquoi ? Parce que nous, on arrive là au printemps, et puis on se met à camper, et puis quand tu dors tous les jours quelque part, bah, la saison change, mais c'est pas... Tout à coup, tu as enlevé ta tente en été, puis tu reviens à camper en hiver et tu te dis, mon Dieu, ça ne va pas être possible. Tu as ton corps qui s'adapte progressivement, bien sûr. Hein. Donc, c'est ça aussi qui permet que c'est possible. Mm-hmm. Et puis, comme tu passes les trois quarts de ton temps dehors, ton corps s'adapte vraiment. Quand on vit des vies en ville où finalement, parfois, on passe même pas 20 minutes dehors par jour parce qu'on saute du métro dans une galerie, dans un bureau, chez soi, etc. Donc, le corps, en fait, il ne vit pas une majorité de températures qui sont hivernales. Donc, il ne s'adapte pas. Tandis que là, quand tu décides de passer la majorité de ton temps dehors, bah, le corps, il s'adapte. Et puis, il y a toutes ces compensations qui sont les compensations de la beauté, en fait. Tu vois, le soir, tu quittes la yourte et tu marches sous les étoiles et tu rentres dans un lieu sans lumière. Il n'y a que les étoiles dans le ciel et tu arrives à ta tente. Il y a une espèce de magie qui est là, tu vois. Ou bien parfois, comme c'était un marais, il y avait déjà un brouillard épais dans le marais. Donc, parfois, tu arrivais, tu ne voyais pas ta tente. Tu vois, et donc tu rentrais tout à coup dans cette autre atmosphère, et puis tu arrivais à ta tente. dans ton cocon, en fait. Hein, et puis, pareil, le matin. Alors, il fait très froid, tu n'as pas envie de te lever, mais tu ouvres ta tirette et puis tu es là dans un univers d'une telle beauté. Tu vois, c'est magnifique de marcher dans la nature pour pouvoir atteindre la cuisine, pour te faire un thé. Mais tu as marché 10 minutes, un quart d'heure dans nature magnifique avant d'arriver, tu vois. C'est pas tu sors de ta chambre et puis tu es face à la porte de ta salle de bain, à la porte de ton WC, et puis tu descends à ta cuisine. En fait, et il se passe autre chose dans ton cœur, dans ta tête, cette espèce de nourriture de la beauté. Elle vient te chercher, puis tu deviens un peu dépendante, parce que c'est tellement fort, tu vois, c'est tellement beau. Après, on s'est adapté peu à peu. En tout cas, moi, très rapidement, j'ai senti que la peau de mouton, la laine à l'état brut, ça, c'était une chaleur animale, mais quasi instantanée, quoi. Donc, à la fin, moi, je dormais sur des peaux de mouton. J'avais une couverture en laine qui était directement sur moi, sans un drap entre. Et puis au-dessus, j'avais une espèce de couverture de laine et de mouton. Enfin, c'est toujours de mouton, mais il y avait de la peau de mouton aussi. Et après, c'est tellement confortable aussi, tu vois. Tu sais, tu arrives dans le froid, il fait glacial, et puis tu te glisses dans cette chaleur animale, en fait, et qui est lourde en plus, tu vois. Tu déposes un châle de laine sur ta tête, parce que sinon ta tête a trop froid, il y a juste ton nez qui sort, tu vois. Mais ça a quelque chose aussi de très sécurisant, en fait. Hein, tu es vraiment, au sens propre du terme, dans un cocon, en fait. Hein, donc... Alors évidemment, la nuit, si tu dois te réveiller pour faire pipi, c'est un peu difficile, mais c'est toujours la même histoire. Moi, je dois me lever toutes les nuits pour faire pipi. Tu dis, oh non, j'attends. Puis à un moment, t'en peux plus, t'y vas. Tu sors et puis tu vois la Voie lactée et tu dis, oh mon Dieu, heureusement que je vais faire pipi. Enfin, tu vois, sinon j'aurais raté ça. Tu vois, tu te rentres. Mais chaque nuit, tu dois quand même te le redire. Puis ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais connu une jeune femme qui vivait dans un camion. Et elle mettait une bougie en dessous d'une poterie, d'un pot de fleurs en poterie, tu vois. Et du coup, la chaleur de la bougie, elle chauffait en fait la poterie et la poterie décrudissait son camion. Donc, elle avait 2 ou 3 poteries comme ça dans son camion. Donc, je m'étais mis à avoir ça dans ma tente aussi. Donc, j'avais une grosse poterie avec, je mettais 3 petites bougies qui duraient 4 heures ou 8 heures, ça dépendait, en dessous de cette poterie pour décrudir. Mais bon, c'est des petits rituels qui sont dont tu es fière aussi. Enfin, tu vois, tu rentres, tu as tes trucs et astuces, tu as tes peaux de mouton, tu allumes tes petites bougies, tu développes des trucs et astuces dont tu es assez fière, en fait. Tu vois, parce qu'au fur et à mesure du temps, tu t'adaptes et puis tu dis, waouh, je suis en train de passer l'hiver dehors, quoi. Waouh. Enfin, tu vois, il y a aussi... une forme de fierté qui amène de la joie, tu vois.
À être autonome et adapté.
Voilà. Alors, à certains moments, comme c'était quand même fort humide, ce que je faisais, je ramenais couverture ou couette avec moi le matin et je les mettais à sécher quelque part dans la yourte. Comme ça, la journée, elle se décrudissait. Puis je repartais avec le soir, tu vois. Ça, c'était quand même... Parfois, quand il faisait très humide, c'était assez aidant. Sinon, tu prends un temps fou à... Ton corps déshumidifie, c'est ça. Tu vois.
Et tes petites bougies, tu les allumais quand tu venais.
Oui, bon, alors c'est l'idéal, c'est de le faire avant. Hein. Ouais, mais bon, avant. Comme c'était quand même loin dans la vallée, on avait tendance à rester dans la yourte, pas aller allumer nos bougies, puis revenir. Donc voilà, mais ça aurait été l'idéal. Mais après, ça décrudit aussi pendant la nuit et c'est très bien comme ça. Donc voilà, donc la laine, ça, hein, de la laine sur soi, pas de coton, le coton ça absorbe l'humidité, un truc de ouf, et c'est pas chaud, hein, tu vois, donc vraiment l'hiver, la laine, et alors un confort animal incroyable quand tu es avec cette laine en fait, hein. Donc ça, ouais, top, oui, donc c'est jouable, ouais, c'est
merci. Vraiment jouable. Un tout petit point de vocabulaire, qu'est-ce que ça veut dire cru?
Pas cru, en Belgique en tout cas, quand on dit qu'il fait cru, on dit qu'il fait froid et humide.
Et donc, il y a un verbe.
Et donc, décrudir, ben... Voilà.
Oui, alors, le froid, je conçois bien qu'on puisse s'adapter, et puis tu nous donnes des petits trucs, et c'est précieux, et c'est vrai que la peau de mouton, j'ai testé sur tes conseils, et c'est magique. Moi, j'aurais plus peur de la pluie. Est-ce que tu aurais d'autres petits trucs sur la pluie?
Alors, il faut se rappeler que c'est juste nos chambres à coucher. Hein? Donc, on piétine pas avec ça toute la journée. Hein? C'est nos chambres à coucher. Après, on s'est pris des pluies torrentielles. Et en fait, voilà, selon les personnes, de nouveau, moi, ça me berce la pluie. Tu vois? J'aime assez bien me sentir dans ce cocon avec le son de la pluie qui est là. Après, quand ça dure toute la nuit, ça peut t'agacer aussi. Donc, tu apprends à mettre une petite boule quies de temps en temps parce que ça t'agace. Et après, on s'est pris des orages pas possibles aussi. Ben alors, ça, c'est les nuits dont tu te souviens. Il n'y a rien à faire. Elles ne sont pas faciles à vivre. Mais on avait toutes des tentes beiges. Et donc, quand il y avait de l'éclair, etc., on n'était pas protégé de la lumière. Donc, on a eu des nuits d'orage et d'éclairs terribles. Alors, c'est la discothèque dans ta tente, tu vois. Mais en même temps, c'est une discothèque qui te fait un peu peur, quoi. Tu vois, parce que ça dure, c'est fort, etc. Après, on a pu vraiment assez vite vérifier qu'on avait des tentes super solides. Et donc ça, c'était sécurisant parce que moi, j'avais déjà vécu dans cette même vallée une traversée avec des femmes où j'avais une petite quechua et mon toit s'était envolé, tu vois. Donc, parce que c'était une vallée qui est orientée est-ouest. Et en Belgique, en tout cas, le vent, il vient toujours de l'ouest. Et donc, le vent, vraiment, il débarque dans cette vallée par l'ouest et puis il la traverse et il sort à l'est, tu vois. Mais alors, ta tente est embarquée, enfin, tu vois. Donc, heureusement, on avait des tentes très solides, mais on sentait qu'on était vraiment secoués. Hein. Donc, tu te dis toujours, ça va tenir, ça va pas tenir. Mais en même temps, c'est du pur bonheur, tu vois. Le lendemain, tout le monde parle que de ça, et puis ça te marque la vie. Et puis finalement, tu es tellement contente d'avoir vécu ça, en
C'est
fait, hein, parce
intense.
que c'est intense, c'est de la vie à l'état brut, en fait. Hein. Et puis tu te dis, ah ouais, mais tous les êtres du marais, ils ne sont pas sous tente. Alors, il y en a qui se sont mis sous ta tente. Tu sens bien qu'il y en a qui sont en dessous de
Il y a de
ton...
la vie
Il y
là-dessous.
a de la vie là-dessous. Mais tu te dis, waouh, les arbres, ils sont immobiles, ils se prennent ça toute la nuit, ils se tiennent debout. Tu as aussi, comme on vit dehors et qu'on est là pour dialoguer avec le vivant, tu as aussi cette espèce de compassion et de cœur qui s'ouvre sur tous les êtres qui sont là, qui ne sont pas protégés, qui se le prennent, quoi, tu vois? Et puis tu vois aussi comment les orages, le tonnerre et tout ça, ça donne une fulgurance de vie à la nature. Vraiment, après, la nature, elle a reçu une charge électrique énorme et ça la gonfle en fait. Hein. Donc tu dis, ah, et moi? Est-ce que je suis gonflée là avec ce que j'ai reçu cette nuit? Est-ce que j'ai pu recevoir cette charge? Donc voilà, c'est des belles choses finalement. Donc je pense que c'est agaçant et c'est très difficile de vivre avec la pluie. Si tu campes et que tu n'as pas de lieu pour te réfugier, mais nous on avait une belle grande yourte, donc quand il pleuvait, personne ne restait en tente la journée, tu vois, en tout cas pas en hiver et tout ça, donc en été parfois. Mais donc voilà, on ne vivait pas sous tente, c'était nos chambres à coucher. Donc ça, il faut regarder là.
C'est important, c'est
Oui.
une nuance importante.
Oui.
Aline, à l'issue de ce laboratoire, si tu devais peut-être donner des conseils à des auditeurs ou auditrices qui seraient tentés par l'expérience pour faire leur propre laboratoire, à quoi tu penserais?
Je penserais au fait que voilà, vi vivre en communauté, c'est pas nécessairement vivre avec ses amis. C'est un gros enjeu de vouloir vivre avec ses amis parce que dès qu'il y a des conflits ou quoi, enfin, il y a des risques de cassures affectives, etc., ou d'enjeux de ne pas oser dire les choses ou quoi, parce qu'on a peur de casser la relation ou quoi. Je me dis que finalement, sur base du fait que j'avais déjà vécu en communauté avant, et où j'avais perdu mes amis, je dis quand même, c'est pas inintéressant de vivre avec des gens que tu connais pas très bien, ou pas du tout, parce qu'il y a moins d'enjeux. Et ça reste en laboratoire, et puis si tu as envie de voir tes amis, tu les vois, tu vois. Donc c'est pas inintéressant. Puis alors après, je me suis rendu compte aussi pendant cette année, que, tu vois, je ne m'étais pas tout de suite rendu compte, mais on était trois lionnes
En signe astrologique.
en signe astrologique, oui. Et donc, dans la lionne, elle a quelque chose du leadership naturel. Et non seulement ça lui est naturel, mais elle a besoin de vivre ça. Ce signe, il a besoin de vivre ça pour s'offrir, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas tellement que c'est un truc qui impose. Ça a besoin de vivre, en fait. Hein. Et donc, si on ne fait pas bien attention et qu'il y a un des trois lions qui va plus facilement prendre sa place, les deux autres, ils vont ne pas prendre cette place, mais au bout d'un certain temps, ils vont s'éteindre parce qu'il y a une grande partie d'eux-mêmes qui ne peut pas vivre. Et donc, ça vaut la peine d'aller regarder, finalement, quels sont les signes astrologiques qui sont là, est-ce qu'on est bien complémentaires, et puis même si on ne l'est pas, faire attention, se dire, tiens, ok, on est trois lions, comment on fait ? Est-ce qu'on se passe le bâton tous les mois, toutes les semaines ? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour pouvoir être dans la considération de qui est là ? Un autre outil qui nous est arrivé assez tard, mais que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant, c'était l'énéagramme. Ça, vraiment, au-delà de l'astrologie, ça m'a aidé à ouvrir les yeux sur certaines personnes où je me disais, mais non, attends, c'est pas possible, elle est presque anormale, cette personne. Ah, non, en fait, il y a des gens qui sont comme ça. Et ça m'a vraiment aidé de me dire qu'il n'y avait pas d'anormalité ou de... même pas juste de la normalité, mais c'est comment expliquer ça, c'était il faut quand même que ces personnes se soignent, enfin tu vois, on peut pas être comme ça ou je sais pas quoi, mais accepter cette différence et puis rentrer à travers les néogrammes à regarder non seulement que c'est un signe de base, que c'est normal, mais aller regarder toutes les qualités que ça apporte, tu vois, et pouvoir dire ah ouais, mais cette manière d'être au monde, en fait, ça permet ces qualités là ben c'est quand même vachement intéressant. Donc ça permet énormément de non seulement d'acceptation, mais de curiosité de l'autre. Mmh. Et donc, c'est quand même vachement intéressant. Mmh. Donc, après, il y a les tempéraments, tu vois, les flegmatiques, les sanguins, les colériques, etc., qu'on peut retrouver dans d'autres trucs. Mais ça vaut la peine d'aller regarder ces outils-là parce que ça offre un outil de base. J'aime pas dire de tolérance parce que la tolérance, c'est pas nécessairement de l'acceptation. Mmh. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de... Mais en tout cas, ça offre une piste pour là où tu avais des choses qui te chatouillaient, qui te grattaient, tout à coup ouvrir. Mmh. Ouvrir, dire « Ah, mais on ne la changera pas, c'est sa base naturelle, donc quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Enfin, tu vois, donc ça, j'ai trouvé que ça valait vraiment la peine. Après, ça vaut la peine aussi de discuter avec les personnes qui sont là. Est-ce qu'elles ont des outils pour gérer leurs propres conflits ou leurs émotions ou les blessures qu'elles ont détectées chez elles? Est-ce qu'elles ont une forme d'autonomie, en fait, avec ça, je pense que c'est vraiment important de ne pas mettre ça sur le groupe, tu vois, d'avoir un minimum de, entre parenthèses, de développement personnel avant, mais aussi d'avoir acquis des outils qui te conviennent bien, sur lesquels tu vas pouvoir te replier pour dire « Ah, ok, je suis de nouveau en train de vivre ça, je ne vais pas l'imposer au groupe. » Voilà. Quitte à après dire au groupe dans quoi tu es et puis que ça circule. Mais ça, je pense, c'est vraiment important. Alors, je me dis, tu vois, il y avait cette phrase qui disait « le dialogue avec le vivant ». Alors, ben, tu vois, c'est comme quand tu dis spiritualité ou que tu dis engagement ou je ne sais pas quoi. Ben, tout de suite, c'est autre chose, en fait, dans la tête de chacun.
Avec, les représentations.
Oui, ouais, les représentations. Donc, pas se fier au fait qu'on pense qu'on, qu'on va tous vers le dialogue avec le vivant. Ah ouais, mais ça veut dire quoi dans ta tête à toi ? Mm-hmm. Et je me rappelle qu'assez bien au début, j'ai proposé que par un exercice de monter dans les chakras et tout ça, on puisse laisser venir en vision qu'est-ce que ça voulait dire pour chacune. Et j'avais été complètement scotchée, mais j'avais presque eu peur de la diversité qui était là. Mm-hmm. En me disant, mais on ne parle pas de la même chose là. Enfin, tu vois. Mm-hmm. Et puis j'avais laissé tomber parce que j'avais eu cette petite phrase mantra dans un texte que j'avais lu, c'est « la communauté est un cadeau, c'est pas quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se reçoit, et moi-même, je suis, et chacun du groupe, est un cadeau pour la communauté ». Et donc, heureusement, j'avais cette phrase, j'ai dit « ok Aline, non, la communauté qui est là est un cadeau, toutes les manières de regarder cette phrase, cet objectif, est un cadeau ». Et donc, je suis rentrée là-dedans. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, non seulement, quelque part, cette phrase ne voulait pas dire la même chose pour tout le monde, mm-hmm. mais les chemins pour y aller ne se ressemblaient pas du tout non plus, tu vois. Donc après, ça a été encore, et quels outils on va utiliser pour y aller? Ah oui, mais selon comment je le définis, je ne vais pas prendre les mêmes chemins. Mm-hmm. Ah bon, mais comment on va faire communauté? Comment on va faire laboratoire ensemble, tu vois? Donc ça m'a pris du temps aussi pour ne pas vouloir que tout le monde suive le même chemin. Parce que c'était insécurisant, en fait, tu vois. Et donc d'accepter qu'il y avait 1000 chemins, en fait, comme il y a 1000 chemins pour aller vers la spiritualité. Enfin, il y a 1000 chemins, donc ça a pris du temps d'accepter ça, et d'être plus que dans l'acceptation, d'être dans la curiosité, l'enrichissement des chemins des autres, et sortir du jugement, dire, enfin, elle... Elle n'est pas du tout dans le projet, quoi. Qu'est-ce qu'elle fout là? Enfin, tu vois. Ah oui, ben non, quand même, quand elle explique, je peux mieux comprendre. Donc voilà, ça demande beaucoup d'ouverture, hein, et de regard sur cette diversité. Puis surtout, pas se leurrer sur le fait qu'on pense qu'on a formulé avec des mots et que donc on pense la même chose. Ben non, parce que tous les mots, ils ont un autre écho à l'intérieur de chacun. Donc tout le temps être dans « ça m'enrichit, c'est riche ». Je m'adapte pour ouvrir. Je m'adapte pour ouvrir, pas pour me suradapter. Je m'adapte pour ouvrir.
Comme les différentes plantes dans la prairie sont différentes et s'adaptent les unes aux autres et ensemble forment un écosystème.
Oui, tout à fait. Et savoir le regarder, quoi, et que c'est beaucoup plus riche cette diversité-là qu'une seule plante que c'est tu trouves belle, quoi.
En monoculture.
Tu vois, voilà. Ouais. Mais bon, ça prend du. Voilà, je pense que ce qui était intéressant aussi, c'est que il y avait trois personnes, trois femmes dans ce groupe qui avaient été formées en un tas d'outils pour le groupe, genre la sociocratie, tu vois. Et en fait, avec le temps, ça fonctionnait pas, en fait. Il y avait, c'est comme si le reste du groupe ne prenait pas. Et en fait, c'est maintenant que je le regarde aujourd'hui, je me dis c'était fort probablement lié au fait que ce sont des outils nés dans le temps linéaire et qui fonctionnent dans le temps linéaire. Et nous, on voulait rentrer dans d'autres temps, dans des temps organiques, dans des temps hors du temps. Et du coup, ces outils n'étaient pas adaptés, en fait, pour vivre ce genre de choses. Donc c'est intéressant aussi d'aller regarder, tiens, j'ai l'impression que ce sont des outils top pour le groupe, mais en fait, est-ce qu'ils sont adaptés au type de projet que je veux vivre? Hein? Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, je me rappelle que tout à la fin de la vie à Momigny, je me suis retrouvée avec deux personnes du mycélium. Il y avait Michel et Christine qui sont venues venir les derniers 15 jours. Et on avait fait un petit exercice sur à quoi je rêve encore, tu vois. Et on avait parlé communauté, ensemble. Et c'était vraiment intéressant de voir comment, à un moment, moi c'était un nom, hein, moi c'est ces rêves utopiques de vie en communauté, habiter ensemble, habitat groupé, les écolieux, etc. Niette. Non, si on n'est pas en laboratoire clair, sur une thématique particulière, sur un temps clair, j'en veux pas. Parce que, voilà, j'ai senti, on est dans des temps de tels bouleversements, de tant de changements, il y a tellement de gens qui rêvent, soi-disant, de l'habitat groupé, etc., mais qu'est-ce qu'ils projettent là-dessus? Il y en a plein qui se plantent. Je me suis dit, eh ben, oser nommer qu'on se met en laboratoire, tu vois, pendant un an, quitte à faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais qu'on se fixe des temps clairs de laboratoire parce qu'on est dans un grand temps de basculement et que du coup, on puisse avancer avec cette idée-là et pas dans l'idée de vivre en écolieu, en habitat groupé avec tout ce que ça a comme utopie, mais où on n'aborde pas... le sujet de base qui est vraiment qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour au-delà de juste habiter ensemble en fait, hein. Donc j'ai trouvé que la formule du laboratoire et d'oser se dire ok, on s'offre un an quoi qu'il arrive, et puis on verra quoi, j'ai trouvé que c'était pertinent.
Ouais, c'est un changement de regard, et c'est intéressant ce que tu dis par rapport justement à ces représentations. C'est vrai qu'on cherche peut-être à soigner quelque chose dans les écolieux, et il y en a tellement tellement qu'il se plante.
Oui. Mmh. Oui.
Donc c'est une autre porte, plus sûre.
Oui, on ne va pas oser, quand on crée un écolieu, demander à chacun d'avoir des outils de développement personnel pour si jamais il a des... tu vois, qu'il tombe dans sa blessure ou dans le conflit, ça ne va pas faire partie des critères. Enfin, tu vois, mais, donc, il y a un tas de choses qui vaut la peine de, ouais, d'être regardées, quoi.
Super. Chers auditeurs et auditrices, nous arrivons à la fin de cet épisode. Aline y a partagé des éléments très concrets à la fois sur les conditions matérielles du laboratoire de dialogue avec le vivant, mais aussi sur comment constituer un groupe. Et finalement, cette réflexion nous a amené à mieux comprendre la notion même de laboratoire qui se caractérise en particulier par une durée limitée fixée à l'avance. J'espère que ces éléments vous inspireront et vous permettront de mener vos propres expériences. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il est disponible sur PodCloud, Spotify et Deezer. Et je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes dans la toile du vivant. À bientôt.
Elle chante pour la vie, elle chante pour dire merci. Elle chante la rivière, s'en remet à la terre-mère. Nada ni naï naï naï, nada ni naï naï na. Nada ni naï naï naï, nada ni naï naï na.